Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, toujours autant de plaisir à vous retrouver chaque lundi pour parler de sport et de tous les sports. Aujourd'hui, bah, ce soir, ça va être la petite balle jaune qui va être à l'honneur avec donc deux invités, le président donc du tennis club 13 de Paris, donc Valentin Ortiz. Bonsoir Valentin.
Bonsoir.
Ça va, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis le directeur sportif de ce même club, donc Jérôme Delbert. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Voilà, donc on fera effectivement, on rentrera dans les coulisses de votre club, hein. On fera un petit peu le tour d'horizon du tennis sur Paris et sur l'Île-de-France. On aura aussi, aussi quelqu'un qu'on connaît bien, Christophe Roger-Vasselin. On l'aura au téléphone tout à l'heure, hein, l'ancien demi-finaliste sur Roland-Garros. On aura notre rubrique mensuelle MMA avec Benoît. Et puis on aura aussi le journal Omnisport avec Vanessa qui nous rejoindra dans la deuxième partie de cette émission. Et puis on va saluer aussi Alexandre qui lui est parti en repérage pour une de ses prochaines émissions la saison prochaine concernant les voyages. Et puis on aura naturellement notre rubrique foot dans la dernière partie de cette émission, comme est la tradition et comme ça l'est donc depuis janvier 2022, hein, depuis qu'existe donc notre émission. Alors, Valentin, comment va le tennis sur Paris ?
Oh bah, ça se passe bien.
Oui, ça va.
Ça se passe bien, surtout dans le 13e.
Oui.
Dans le tennis club du 13e.
Voilà, alors, en vous contactant, j'ai vu qu'il y a quand même plusieurs clubs de tennis dans le 13e. Pourquoi ? Vous êtes le plus important quand même. Hein. Mais pourquoi plusieurs clubs ?
Oui. Parce que les gens aiment le tennis et les gens veulent. Enfin, il y a des gens dans le quartier qui se réunissent et qui se disent tiens, on va créer une assoc et on va. Et donc, ils réussissent à s'organiser pour obtenir des terrains et c'est comme ça que le tennis club du 13e est né. En fait,
Mais finalement, ça serait pas mieux que tout le monde s'associe ensemble pour faire un immense grand club, un seul et unique.
Alors ça c'est une réflexion que j'ai eue en effet, mais je pense que la variété est bonne. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un effet d'échelle, hein, c'est-à-dire qu'on peut aussi mettre en commun des profs, des horaires, on peut adresser beaucoup de niveaux chez les enfants, chez les adultes, beaucoup de pratiques quand on est gros. Mais je pense que la diversité, c'est bien aussi. Donc,
Donc, il y a de la place pour tout le monde, quoi.
Il y a de la place pour tout le monde. Enfin, non, il n'y a pas beaucoup de place. Pas beaucoup de place dans le 13e.
Oui. Mais justement, ça peut peut-être aider que tout le monde puisse pratiquer le tennis si finalement, il y a cette diversité.
Bah oui, moi je trouve ça bien qu'il y ait une diversité, mais c'est vrai que le manque de terrain dans le 13e, dans le 13e et dans tout Paris, est quand même un sujet... pour le tennis, c'est sûr.
Alors vous êtes donc président de ce club depuis quand et comment arrive cette histoire et cette passion pour le tennis ?
Moi je joue au tennis depuis assez tard. Hein, donc,
Sport de reconversion ?
Non, à 18 ans. Assez tard,
d'accord, vous êtes originaire du Pérou,
Oui.
Est-ce qu'on pratique ce sport au Pérou ?
Beaucoup.
Oui, beaucoup.
Oh, beaucoup, beaucoup. Pas beaucoup le tennis.
Oui.
C'est quand même un peu comme avant en France, c'était un sport un peu d'élite. Maintenant, en France, ça s'est beaucoup plus démocratisé.
Beaucoup démocratisé.
Et dans le 13e, nous sommes dans un quartier qui est politique de la ville, hein, donc on joue au tennis partout. Mais au Pérou, il y a encore ces réminiscences de ce passé. Et au Pérou, c'est plutôt le foot.
Oui, bien sûr. Alors, donc vous commencez, on l'a dit, à 18 ans, c'est ça ?
Hein ? Tout à fait.
Oui. Et puis, comment on en arrive à toujours au tennis club du 13e ?
Non, pas du tout. À 18 ans, au Pérou.
J'ai
commencé au Pérou. Okay. Et bon, après, pour moi, le tennis a toujours été du tennis.
Il vous accompagnait partout.
Il m'accompagnait partout. Ouais. Et je suis bénévole. Hein, donc, on est une équipe de bénévoles à la direction du club. Et j'ai eu un problème de santé. J'ai une maladie congénitale, en fait. J'ai une dégénérescence maculaire.
D'accord.
De vue. Mm-hmm. Et ça m'a fait... Ça s'est Ça s'est, comment dire, manifesté vers 2010 par là. Et bon, ça m'a fait un peu réfléchir sur le sens de ce que je voulais faire dans ma vie. Et j'ai décidé de travailler moins. Enfin, j'ai eu cette chance de pouvoir le faire. Et quelques années après, je devenais président du club parce que j'aime bien.
Comme ça, porté par les événements ?
Un peu porté par les événements, tout à fait. Et, mais il y a quand même aussi cette idée de donner du temps pour les autres, pour la vie de
hyper
quartier.
Hyper important.
Je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui puissent le faire et aussi des gens... moi, je suis actif, je travaille toujours, mais c'est pour moi, c'est important. C'est un bon équilibre.
Ce fameux partage, quoi. C'est important.
D'ailleurs, la devise du TC13, c'est le tennis ensemble, le tennis pour tous.
C'est la
devise qu'on a mis en place quand je suis arrivé.
Alors, on parlera un peu de l'historique de votre club. Mais d'abord, je vais demander à Jérôme Delbert. Lui, depuis combien de temps, Jérôme, il est dans le tennis?
Moi, dans le tennis, depuis très longtemps. Ça fait presque 40 ans, je pense. Alors, moi, j'ai commencé par enseigner le tennis. Donc dans les fin des années 80 et au club au TC13 depuis 2018.
D'accord. Donc même question donc à Valentin, ça vous a toujours accompagné le tennis ?
Oui, ça fait très très longtemps. Oui, ça a été vraiment une passion en tant que joueur et puis après une passion en tant qu'enseignant, pour essayer de permettre à pas mal de gens de pouvoir progresser, de pouvoir prendre du plaisir à jouer, et donc avec des publics de tous âges, de tous niveaux, et avec même tout type de public, donc que ce soit une majorité de joueurs valides, mais aussi dans le handisport.
On va en parler aussi.
Et donc là, ça a été mon activité principale quasiment toute ma vie. Ma vie, quoi.
Alors, c'est vrai que nous, on est d'une génération qui avons connu le tennis des années 80, l'embellie, la popularisation du tennis des années 80, avec, Noah qui gagne Roland-Garros, mais Borg, Villas, Connors, enfin tous ceux qui nous ont fait rêver. C'est vrai que le tennis, il se démocratise à cette époque-là.
Oui, ça s'est beaucoup développé. Il y a énormément de...
McEnroe, de
terrains de tennis qui ont été construits un peu partout. On trouvait quasiment dans tous les villages, on pouvait trouver des terrains de tennis.
C'était le sport numéro 2 avec le foot. C'était les deux sports qui partageaient à l'époque la une de... sportive.
Alors c'était beaucoup porté par ça. Après, on a eu aussi une période
De creux.
De creux, tout est relatif, parce qu'il y a quand même eu ce qu'on a appelé les mousquetaires, là, avec les Gaël, mon fils, Richard Gasquet, Gilles Simon, Tsonga, et où donc là, ça... Alors, ils n'ont pas gagné de tournoi du Grand Chelem, mais on a quand même eu une époque où on avait donc 4 voire 5 joueurs qui étaient dans les 10-20 meilleurs mondiaux. Ce qui est... Quand on regarde maintenant, on se rend compte que c'est finalement pas si simple que ça.
Oui, non, bien sûr.
Mais malgré tout, le tennis là marche. Enfin, si nous on en juge par les demandes qu'il peut y avoir au niveau de Paris et notamment nous au niveau du 13e, on voit que c'est un sport qui est quand même très très populaire. Il y a énormément de demandes.
Qui s'est complètement démocratisé maintenant.
Complètement démocratisé, oui.
Alors justement, Valentin, faites un petit peu l'historique de ce club.
Alors c'est un club qui a été c'est un club municipal à la base, fondé en 1984, à la mairie.
À la belle époque du tennis, à l'âge d'or justement du tennis sur le plan médiatique.
Par des gens du quartier et qui a peu à peu grossi, qui s'est séparé de la mairie de Paris à un moment donné. On n'est plus un club municipal, on est un club, une association indépendante. Nous travaillons toujours beaucoup avec la mairie du 13e.
Oui, vous touchez les subventions de la ville de Paris quand même.
Et puis aussi du support, sur nos projets. Avec l'adjoint au maire du 13e, on travaille vraiment de concert. Mais bon, on est quand même indépendant. Et donc, en fait, le nombre d'adhérents n'a fait que croître jusqu'à maintenant. On est au pic. Quoi. Enfin, on est toujours,
combien vous êtes?
On est 870.
870 ouais. Alors, ça se répartit comment? Plus jeune, c'est 4 ans, je crois, non?
Oui, de 4 à, 80, à 82 ans.
Ah, c'est ça qui est fabuleux dans le tennis. Hein.
Ouais. Exact.
On peut faire le baby tennis et puis on peut jouer au tennis jusqu'à 70-80 ans sans aucun problème. Hein.
Oui, alors il y a les piou-piou, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, les piou-piou.
Nous, les piou-piou chez nous, oui. C'est les plus petits.
Oui.
Et on a aussi du sport santé pour les plus âgés, pour les quelques plus âgés qui jouent. On a des sessions, bon voilà, ça c'est... Et sinon, on a la moitié de jeunes, de mineurs, enfin de moins de 18 ans, et la moitié d'adultes. On a 35% de femmes, qui est un peu plus que
c'est
la moyenne nationale.
C'est très bien, c'est
on
très
essaie
bien.
De favoriser le tennis féminin et... Et de toucher, en fait, on cherche à toucher des publics qui,
oui,
enfin, en plus du public habituel, des publics qui voilà, ne sont pas forcément spontanément vers le, qui vont pas spontanément vers le tennis.
Et les jeunes qui viennent dans votre club, ils y restent à ce sport, au tennis?
Oui, globalement, oui. Alors, on a des petites pertes au niveau ado, mais de piou-piou à jusqu'à 13-14 ans, Jérôme, je pense qu'on est...
Oui, les gens, les enfants et les gens en général sont très fidèles au club. Donc en fait, on a assez peu de comment dire, assez peu de départs chaque année.
Oui.
Je pense qu'on a un taux qui doit être de
90 et quelques. Hein.
Oui, voilà, oui.
Ouais, c'est ça.
Donc, le renouvellement.
Quand on commence avec des tout petits de 4 ans, naturellement, il y a la forme ludique, hein, l'apprentissage ludique. Et après, on monte comme ça en différentes catégories.
Tout à fait.
Oui.
Donc en fait, il va y avoir... Alors, il y a donc les plus petits, ça va être les piou-piou qui, eux, sont... sous des jeux sous forme d'ateliers, où il va y avoir de la motricité, il va y avoir, enfin voilà, ça, l'objectif est que ça reste ludique, ça n'est pas technique à proprement parler, et petit à petit, donc les groupes après vont permettre de pouvoir évoluer. Ce qui est très bien dans le tennis, c'est que il y a cette possibilité d'évolution aussi, parce qu'on peut adapter à la fois le terrain, ce qui est le cas avec les piou-piou, où on ne joue pas du tout sur un grand terrain de tennis, en fait. On adapte aussi la balle. Donc, les balles vont de... alors, d'une sorte de ballon qui roule pour les tout-petits, à une balle qu'on appelle la balle violette, qui ressemble à un petit ballon qui, lui, va commencer à rebondir. Et puis, on passe comme ça, de balle en balle, pour avoir... donc la possibilité de ce que permet cette adaptation, c'est qu'en fait les enfants vont pouvoir jouer, vont pouvoir faire des échanges très tôt, parce qu'ils vont être sur un terrain adapté avec une balle adaptée. Et donc voilà, et donc nous on va avoir des groupes comme ça qui vont évoluer d'année en année pour passer donc des premières balles qui sont très grosses et qui roulent, à la balle orange, qui permet de jouer sur un terrain intermédiaire, et puis après de passer sur grand terrain, etc. Voilà.
Et les compétitions, à partir de quel âge on peut s'y inscrire?
Alors les compétitions, pour ce qui est de officiel, homologué, ça va être à partir de 7-8 ans.
Ah, quand même.
Là, oui, par exemple, on a organisé hier un tournoi Galaxy Orange. Donc, c'est un tournoi qui est réservé aux enfants qui ont entre 8 et 10 ans et qui jouent avec donc, la balle orange. C'est-à-dire, c'est une balle qui est un peu plus légère, qui a un rebond un peu moins haut et qui permet de jouer sur un terrain qui est un petit peu plus court aussi.
Oui. En combien de jeux?
Alors là, tout serait possible. Ils pourraient jouer des sets classiques. Là, nous, par exemple, sur le tournoi, c'est ce qu'on appelle un tournoi multichamp, c'est-à-dire que ça leur permet de pouvoir jouer quoi qu'il arrive. Ce qui peut être compliqué au tennis, c'est que quand on perd, c'est fini. Il y a toujours un qui perd, un qui gagne.
Ah, oui.
Là, avec les tournois multichamp, l'avantage, c'est qu'ils sont assurés de jouer plusieurs matchs quoi qu'il arrive. Donc, même si on a perdu, on a une deuxième chance de jouer un match, puis une troisième, puis une quatrième. Et donc, du coup, on fait des formats qui sont adaptés aussi au niveau des jeux. Donc là, par exemple... le tournoi Galaxy Orange, il était sur un format où en fait c'est des sets de 3 jeux.
D'accord.
Donc ça va plus vite. Voilà, il y a plein de possibilités d'adaptation au tennis, c'est ça qui est fantastique. Là pareil, les jeux, contrairement à Roland-Garros, ne vont pas jusqu'aux avantages. En fait, quand on arrive à égalité, on joue un point décisif, donc ça accélère Ça permet d'avoir une durée de match qui est un petit peu plus courte, voilà. Et donc de pouvoir proposer justement de rejouer. Mais ça existe donc pour les enfants, mais ça existe aussi maintenant pour les adultes. Il y a des formats comme ça qui leur permettent de pouvoir avoir un côté plus ludique et
Oui.
moins élitiste que ce que ça pouvait être dans le temps quand on faisait de la compétition. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir jouer plusieurs matchs.
Oui.
Et voilà.
Et puis c'est un sport qu'on peut pratiquer aussi en famille. Et ça, c'est hyper important. Ce qui explique qu'il y ait beaucoup de femmes qui fassent le sport.
Oui, tout à fait.
Hein?
Alors, tout à fait. On a beaucoup de parents et d'enfants au club, enfin de famille. D'ailleurs, on a
Un tournoi double mixte, non?
un
Oui.
tournoi
Ah
double
oui,
mixte
bah
qui va
oui, en
arriver
plus.
bientôt. On a d'ailleurs créé depuis déjà plusieurs années maintenant une formule qui permet, quand on s'inscrit au club, d'avoir un tarif d'inscription qui va être plus avantageux si on s'inscrit en famille. Donc, en fait, à partir du deuxième membre d'une même famille au sens large, on va payer un tarif un petit peu dégressif. Et voilà. Et donc, on n'est pas rare d'avoir des familles avec les parents, les deux ou trois enfants qui jouent et qui
Ah,
sont
c'est
au
bien,
club.
ah, c'est bien.
Voilà.
C'est combien le prix de la licence et de la cotisation dans le club?
C'est 450 hein, pour les enfants, entre 430 et 470
Ouais, voilà, ça va être
suivant
ça à peu
l'année, ouais.
près.
Et pour les adultes, on est à 570.
D'accord. Et il
Et
y a un petit plus
plus.
si on fait de la compétition?
Oui.
Oui.
Oui, c'est ça. Il est de combien le petit plus, non?
Oh,
On tourne à 600 et
oui,
quelques,
voilà, ça va être ça.
650.
Mais ils n'ont pas les mêmes conditions de jeu. Voilà, ils
Ouais,
vont
bien
avoir
sûr.
un petit peu plus de durée d'entraînement. Ils vont être un peu moins nombreux sur le terrain. Bah, c'est un petit peu la chose compliquée avec le tennis. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de demandes et que c'est difficile. C'est qu'en fait, il y a une limite au nombre de joueurs qu'on peut mettre sur un terrain.
Bah oui.
Il faut que ça reste homogène et donc voilà, on est du coup un peu contraint par ça. Voilà,
Ouais.
je pense qu'on est en termes de tarifs au niveau Paris.
Un des moins chers de la capitale,
Voilà,
ouais. Oui,
on est
le moins
le
cher, ça c'est bien.
Un des moins chers.
Oui, ça c'est bien. Bon, oui, parce qu'après, bon, il y a l'équipement, mais ça c'est la raquette, il est à la charge du pratiquant ou de la
Oui,
pratiquante. Hein.
oui.
Bon, après les raquettes, on peut en avoir plusieurs aussi sur une saison, mais enfin ça c'est peut-être le côté un
Ça,
petit peu
c'est plus sur la compétition,
ouais,
oui.
ou fétichiste. Hein. Et puis sinon, bah, le reste, les balles, c'est le club qui fournit.
Bien sûr.
Ouais. Et puis après, bah, l'équipement, c'est un équipement simple. Hein.
Oui.
Hein. Tout à fait. Après, il faut avoir un équipement sportif. Voilà. Alors, c'est préférable malgré tout d'avoir des chaussures adaptées, parce
Oui.
que il y a des problèmes d'appui. On est sur nous dans le 13e, mais comme la plupart des clubs à Paris, sur des surfaces en dur. Et donc, il vaut mieux avoir des chaussures qui tiennent bien, qui sont bien, bien stables au sol. Mais autrement, oui, on peut jouer en short, en jogging. Voilà, il n'y a pas de.
Alors justement, ça, vous avez mis des créneaux qui, je suppose, mobilisent vos installations 7 jours sur 7, j'ai presque
Ah,
envie de
ben,
dire
c'est 7 jours sur
24
7.
heures sur 24, non quand même pas.
Alors, c'est pas 24 heures sur 24,
Mais
mais
presque.
sans mentir,
Ouais.
on fait court. Le premier jour de la semaine, donc le lundi, on commence à 11h du matin.
Oui, ça va encore.
Oui,
Hein?
et on finit dernier cours encadré le dimanche à 13h.
Ah oui. Ah
Et
oui.
entre-temps, alors c'est pas non-stop,
Oui.
mais on est sur les terrains donc tous les soirs,
Oui.
tous les midis.
Oui, parce que quelqu'un qui, après son travail, voudrait jouer, je sais pas, moi, le soir à 20h, 21h, il peut?
Bien sûr.
Oui.
Alors, la particularité du club, parce qu'on parlait du nombre d'adhérents ou de licenciés, c'est que nous, je sais pas, c'est 95, peut-être même plus, 95% de nos adhérents sont des pratiquants qui prennent des cours. Donc, que ce soit de la compétition, que ce soit du loisir, mais ils sont encadrés, ils vont
Ouais.
être sur le terrain pendant 1 heure, 1 heure et demie, avec un entraîneur. Tous nos entraîneurs, on est une quinzaine d'entraîneurs au club. Tous nos entraîneurs sont diplômés.
Ouais, donc tout, faut dire tous diplômés, donc tous rémunérés,
Ah
fatalement.
oui,
Oui,
ah
non,
oui.
mais
Tous
bien sûr, faut
salariés
le dire, hein.
du
12
club.
salariés quand même, c'est énorme,
Tous
hein.
salariés du club. Et donc, là, la majorité, ouais, voilà, prennent des cours. Donc, en fait, effectivement, nous, les heures sont vraiment utilisées majoritairement pour donner des cours.
Ouais. Mais comment ça se passe? On est obligé de réserver? Parce que si on fait du loisir, qu'on veut jouer, qu'on veut aller jouer à n'importe quelle heure, les créneaux ne sont pas libres. Quoi.
Ah non, c'est sûr.
Eh oui. Alors comment fait-on?
Il y a un logiciel de la FFT qui nous permet de réserver en ligne, enfin qui permet à nos adhérents de réserver en ligne sur nos installations. Alors c'est quand même, on n'a pas quand même beaucoup d'heures, hein, puisque le focus est quand même donné sur les cours collectifs.
Oui, bien sûr.
Mais il faut avoir des cours et pratiquer pour progresser. Donc de toute façon, il nous faut des créneaux comme ça, et on fait aussi des animations. Il y a aussi un tournoi annuel qui s'étire sur toute l'année où c'est des matchs défis.
Ah,
donc
bien.
Chaque adhérent peut défier un autre et le résultat de ce match donne des points pour être classé, avoir son classement en 33.
Alors, en tant que président, ça ne doit pas toujours être facile de faire cette osmose entre les pratiquants et puis les loisirs. Il n'y a pas des petites reproches des fois, tant d'autres?
Je pense que les adhérents sont très très content des profs. Hein.
Oui,
on a
une
très très bonne équipe, donc il n'y a pas de critique par rapport à ça. Par contre, on a des remontées sur le fait qu'il n'y ait pas assez de terrain. Ça, c'est certain.
Alors justement,
Mais bon, c'est vrai chez nous.
Où sont vos installations? À Carpentier?
Alors nous, on est majoritairement à Charles Moureux.
D'accord.
Donc Charles Moureux, c'est à côté de la fac de Tolbiac.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Donc là où il y a trois terrains couverts.
Couverts, tous couverts.
Tous couverts.
Oui.
Et on est aussi à Carpentier, donc Carpentier, porte entre la porte d'Italie et la porte d'Ivry, quoi. Là, il y a deux terrains couverts.
Oui, voilà. Et vous avez aussi des cours en plein air?
Nous, on n'a pas de cours en plein air. On est uniquement sur des terrains couverts. On a aussi quelques créneaux sur les terrains de la Poterne des Peupliers.
Oui.
Donc, il y a deux terrains de tennis là, qui sont au bout du terrain de foot. Voilà, on a quelques créneaux. On est exclusivement sur des terrains couverts.
D'accord. Alors justement, le fait qu'il y ait comme ça une multitude de clubs, la diversité, comme vous l'aviez dit, il peut y avoir des arrangements des fois. Entre clubs, on peut des fois, non? Pas...
pas beaucoup, parce que c'est tout c'est un partage de gâteau qui est assez strict.
Oui.
Donc
ouais.
La DJS nous donne des créneaux et c'est des conventions qui sont sur 3 ans. Donc fois qu'on a ça, chaque club défend son bout de gras. Alors on peut en réserver en plus à la FFT, enfin au comité de tennis de Paris. Mais bon, ça reste ponctuel et c'est plus cher. C'est vrai que lors des vacances scolaires et suivant les animations et les projets qu'on peut avoir, on va demander des créneaux en plus, mais c'est plutôt à la FFT, via la FFT que ça se fait.
Ça vaut combien un cours particulier?
Alors nous, on n'a pas de cours particulier au niveau du club.
D'accord.
En fait, on n'est que sur du cours collectif.
D'accord, du cours collectif. Ok, ça coûte combien sinon?
Un cours particulier?
Oui, non, ou collectif, c'est quoi?
Nous, c'est entre un peu moins de 400 pour les piou-piou, et ça peut monter jusqu'à 600, 650 pour
l'année. Oui,
pour l'année. Ce qui comprend tout, quand on dit sur l'année, c'est les entraînements, la licence. On a aussi mis en place depuis plusieurs années de la préparation physique qui est comprise dans la cotisation. Ça veut dire que quand les gens s'inscrivent, en fait, ils peuvent s'inscrire après à la préparation physique qui se tient principalement à Carpentier le samedi. Donc les gens ont la possibilité donc de pouvoir rejouer en fonction des créneaux disponibles donc sur les terrains du club. Voilà, et donc la cotisation permet tout ça. Et donc, je vous dis, ça tourne entre moins de 400 euros pour les plus petits, et ça va jusqu'à 650 euros pour les joueurs de compétition.
Qui ont plus d'heures.
Voilà, qui ont un volume un peu plus important.
Alors, on en parlait hors antenne, vous êtes obligé de refuser du monde. Donc, je ne veux pas vous poser la question, est-ce qu'on peut s'inscrire? Non, ce n'est pas possible, on ne peut pas vous rejoindre, même après cette émission.
Si.
Il y a quand même,
vous
prenez encore du monde. Ah bon, d'accord.
Alors, ça, en fait,
bonne nouvelle, alors.
On a énormément de demandes.
Oui.
Donc, on n'arrive pas à prendre de façon annuelle, on est limité, puisque, ça puisse fonctionner, on ne peut pas déborder ou mettre 8 personnes sur le terrain. Par contre, on a trouvé des stratégies pour arriver à proposer quand même, parce que c'est déchirant quand on aime son sport, c'est assez déchirant d'avoir à refuser à des gens. Donc en fait, ce qu'on a mis en place, c'est que pendant les pendant les vacances scolaires, en fait, on propose, alors notamment pour les adultes, des stages pour des gens qui n'ont pas trouvé de place.
Et qui sont sur liste d'attente.
Et qui sont sur liste d'attente. Et donc, on propose, et donc, on organise depuis déjà l'année dernière, donc on organise des stages comme ça. Alors, par exemple, là, pendant les vacances d'hiver, on a eu, sur la première semaine, une quinzaine de personnes qui ont pu participer.
Ah,
donc,
bien.
En soirée, à des stages, encadrés toujours par des profs du club, etc. Voilà. Et donc, ça permet un petit peu de pouvoir proposer. Mais effectivement, c'est limité. Donc là, maintenant, la seule condition pour se développer, c'est d'avoir plus de créneaux.
Ah oui, et puis peut-être que vous aiguillez aussi sur les autres clubs, du 13e ou des autres arrondissements.
Ah, oui, oui, alors, mais je pense que les gens qui postulent pour. Qui candidatent pour essayer d'aller au club le font aussi dans d'autres. Sur d'autres clubs. Il y a des clubs autour de nous, dans Paris ou même en banlieue. Voilà, donc c'est à peu près sûr. Mais malgré tout, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se retrouvent à ne pas trouver de club.
C'est fou, donc ça veut dire que le tennis reste un sport encore très populaire. Et ce n'est plus un sport uniquement de reconversion. Hein. Et puis en plus, c'est un sport qui peut, on l'a vu, s'adresser à tous les gabarits. Quoi.
Ah oui, tout à
fait.
C'est
ça la force de sport.
Tout à fait.
Oui. Hein. Donc c'est un petit peu le problème de tous les clubs sur Paris, ce manque d'infrastructures et donc ce refus de pratiquants.
Oui, on refuse presque un sur deux.
Ah là là. Ah
ouais. Plus d'un sur deux, pardon.
Ouais, ouais.
Donc ça, c'est énorme.
Ouais, ouais, ça, c'est
alors
énorme.
Si on a réussi à faire des stages dans l'année, avoir un contact avec le club dans l'année, lors des inscriptions de l'année suivante, on est prioritaire. Donc c'est possible hein, de rentrer. Et puis de toute façon, il y a des gens qui rentrent tous les ans. Enfin, mais c'est vrai que ça a été très frustrant au niveau du comité de nous rendre compte qu'il y avait autant de gens qui étaient refusés et on essaie de pousser les murs, donc de proposer des choses au cours d'année, même s'ils n'ont pas été acceptés ou il n'y avait pas eu de place, de leur proposer des stages ou quelque chose pour que... Je pense que le sport, c'est important. On est en ville, il faut que les gens bougent. Donc, avoir une proposition de sport, ça me semble... Et puis, c'est un sport qu'on aime, c'est encore mieux. Mais voilà, réussir à proposer ça, c'est une priorité pour nous.
Et l'handi-tennis aussi, c'est important dans votre club aussi?
Alors, on a du tennis adapté,
oui,
en effet.
Tennis adapté,
tennis, on a, enfin, pour différents publics, des publics en situation de handicap mental. À travers un accord qu'on a avec l'ASM13, l'Association de santé mentale du 13e, et du tennis en fauteuil.
D'accord.
Donc on a une quinzaine, hein, c'est ça Jérôme ? Une quinzaine l'année dernière, je ne sais pas, cette année.
Oui, c'est, ouais, ça, c'est ça. Alors, ouais, en tennis adapté, donc plutôt sur les personnes atteintes de troubles autistiques, ou, par exemple. Là, il y a une quinzaine. Donc, effectivement, une partie qui est avec un centre qui est situé à côté de Carpentier, donc la SM13. On en a aussi, on a quelques pratiquants adhérents du club qui sont là déjà depuis plusieurs années. Donc, le tennis adapté, ça fait déjà plusieurs années que c'est développé au club. Et là, depuis 3 ans, on a commencé à mettre en place du paratennis, donc le tennis en fauteuil. Comme on a pu voir cet été pour les Jeux
Nous,
paralympiques.
Nous, il y avait Stéphane Houdet qu'on a eu l'occasion
d'interviewer.
Voilà.
Hein. On essaye de développer le paratennis depuis 2-3 ans. Et donc là, on commence. On a environ 4 pratiquants pour l'instant. Mm-hmm. Et on essaye de développer ça.
Est-ce que les écoles viennent aussi participer à quelques comme ça séances scolaires au sein de votre club?
Alors non.
Non.
Nous, pour l'instant, ce qui s'est passé, c'est plutôt l'inverse. On s'est déplacé dans des
c'est
écoles.
C'est bien. Ouais.
Alors donc du coup, plutôt avec des petits dans les écoles maternelles, ou éventuellement primaires. Non, pour l'instant, il n'y a pas. On aimerait beaucoup arriver à développer ça, le tennis à l'école.
Oui, parce
comme
que
ça s'appelle.
Ça se fait dans beaucoup de sports. Hein. Ils viennent participer à la séance de gym à travers les différentes installations sportives donc des clubs. Est-ce qu'il y a aussi des actions caritatives que vous faites, par exemple le Téléthon?
Alors, nous, on n'a pas participé au Téléthon, mais par contre, on organise tous les ans aussi depuis plusieurs années. On participe à
Octobre Rose
et
bien.
Novembre Bleu aussi.
Oui.
Donc on fait les 2 mois où donc on organise des animations par rapport à ça. Et donc où les les bénéfices de cette animation sont reversés à la Ligue contre le cancer. Voilà. Et oui, on essaye vraiment d'être dans une action très, très solidaire. Voilà.
Votre club, c'est avant tout un club formateur où les résultats des différentes compétitions, c'est aussi important. Vous y prêtez attention.
Ben, je dirais un peu les deux.
Oui.
Nous, on est principalement un club formateur. On a l'ADN du club, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les 800 et quelques adhérents, une majorité prend des cours. Ils ne sont pas tous compétiteurs de haut niveau, fatalement. Donc nous, notre ADN, ça va être vraiment ça, la formation. Mais on a aussi des compétiteurs. D'ailleurs, par exemple, j'en profite, dans 2 semaines, on reçoit la finale des plus de 35 ans du championnat de Paris. Voilà, et donc le TC13
venez,
est représenté.
Venez vous voir.
Voilà, il faut venir. C'est à Charleroi le dimanche matin à partir de 9h.
Ouais, très bien.
Voilà.
Allez, on va marquer une petite pause musicale. On va la faire lier au tennis, hein. Saga Africa avec Yannick Noah. Puis ensuite, on aura donc Christophe Roger Vasselin qui connaît bien Yannick Noah, hein, puisque Yannick Noah l'avait battu en demi-finale sur Roland Garros en 83, qu'on a gagné donc cette année-là le célèbre tournoi sur terre battue. On écoute donc Yannick Noah et ensuite on aura l'occasion de retrouver Christophe Roger Vasselin.
Petit blanc, oui, oui, petit blanc, Paris, Yaoundé, connexion, mais venez, allons, ambiance, ambiance, sous-pousse, ambiance, Makossa, ou l'ambiance du Bikutsi, ambiance, Asiko, mouvement, partout, et mouvement, droite, mouvement, à gauche, roulement de Pecos, direction à l'hôpital, docteur, c'est mauvais.
Avec les lions indomptables. Nos chrono dégage, suppositoire de l'attaque adverse. Dégagement multidirectionnel, donc chrono. Les défenseurs voient complètement flash. François Omambi, Amoti, église insolent. Dieu solo et lance Mila. Au bombe de Mila, dribble là-bas. Un dribble sorti du doigt de laboratoire footballistique d'étudie. L'affaire est grave, il tire au goal. Il y est.
Saga Africa, ambiance de la blues. Saga Africa, attention les secours. Saga Africa, ambiance de la blues. Saga Africa, ambiance de la blues.
de la blues. Attention, Saga Africa. Attention les secousses. Saga Africa. Ambiance de la blues. Saga Africa. Attention les secousses. Saga Africa.
Voilà, donc on voulait rester dans la configuration technique. Christophe Roger-Vassin, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir patienté. Ça rappelle, ça rappelle forcément des bons souvenirs, ce disque.
Hein, oui, bien sûr. Bah oui, c'est il y a quelque temps. Hein, bien,
voilà.
Sûr.
Alors, en tout cas, merci donc de nous donc accorder quelques minutes. Je voulais savoir comment vous donc vous vivez le tennis maintenant sur Paris. Comment, d'une façon générale, se porte le tennis sur Paris que vous enseignez dans le 16e et le 17e?
Oui, absolument. Bah, écoutez, ça se passe bien. Il y a beaucoup de demandes.
Oui.
Les gens sont contents, ils aiment ça. Donc, je dirais plutôt que c'est un sport en vogue à Paris. Il y a du monde. Il y a beaucoup de gens qui veulent jouer au tennis et qui ne trouvent pas toujours les places qu'ils veulent parce que tout le monde veut jouer, évidemment, à la même heure, le soir, pour les gens qui travaillent ou le week-end. Et c'est là où c'est un peu il y a beaucoup de monde. Quoi.
Vous n'en êtes pas à refuser du monde, quand même, dans vos clubs?
Non, mais certains créneaux, oui, le mercredi après-midi, il y a quand même beaucoup de demandes d'enfants. En plein après-midi comme ça, c'est des créneaux. Il faut leur proposer d'autres créneaux, quoi. Donc on ne refuse pas du monde, mais on est obligé de les remettre sur d'autres créneaux où il y a de la place.
Alors je vais vous mettre en duplex avec le président du tennis club Paris 13, hein, donc Valentin Ortiz. Valentin, donc,
bonsoir.
Si vous avez quelque chose à dire à Christophe.
À Christophe.
Bonjour, bonsoir. Oui, bah nous, on refuse du monde. Hein. Les gens. Je sais pas. Alors, peut-être qu'on a dans le quartier un engouement particulier ou dans cette région.
Mais il y a du monde. Mais peut-être qu'il y a beaucoup de cours, plus de cours dans les. Je sais. C'est vrai que j'ai pas fait un pointage exact du nombre de cours par arrondissement et par rapport au nombre d'habitants par arrondissement, des choses comme ça. Mais on a du monde. Hein. Oui. Alors, c'est surtout le soir. Pour les adultes, on est plein. Voilà. Soir en adulte, il y a vraiment beaucoup de monde qui demande et c'est compliqué.
Nous, ce qu'on a comme problème, c'est que les enfants, c'est pareil, ils peuvent être là à un certain, enfin le mercredi après-midi ou en début de soirée, mais pas trop tard. Donc c'est pareil.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est après si on leur propose des horaires, ça leur convient pas parce que des fois ils peuvent pas parce qu'ils ont peut-être une autre activité, du judo, la danse, enfin des choses, ou ils partent en week-end donc ils peuvent pas jouer le samedi. Donc c'est sûr que le grand sujet, ce sont les horaires, les créneaux horaires, les niveaux aussi, parce que s'il y a une place qui reste pour un petit de 9 ans, mais complètement débutant, alors que lui, il joue bien et tout, on ne peut pas le mettre dans le groupe, par exemple. Hein. Donc, ça, tout un tas de choses comme ça que les responsables de clubs parisiens ou autres connaissent bien.
Bon, enfin, quelque part, tant mieux, ça prouve que c'est un sport qui va très bien quand même.
Oui, le sport, oui, au niveau du monde sur Paris, il y a du monde.
Oui, et puis les adhérents sont très contents, les joueurs, ils sont très contents, ils sont ravis.
Tout à fait.
Bon, Christophe, je m'en voudrais de vous poser quand même, de ne pas vous poser cette question. Quand est-ce qu'on va gagner Roland-Garros en français?
Vous et moi,
nous, on est d'une certaine génération, hein. Bon, voilà, on a connu Yannick, on vous a connu en demi-finale.
Yannick l'a gagné. Il a fêté les 40 ans de sa victoire l'année dernière et il a dit bon les gars à dans 10 ans. Mais bon, on sait jamais, ça peut venir de n'importe où. Il y a peut-être un jeune, je connais pas tous les jeunes, mais il y a peut-être un jeune super doué qui a 14 ans aujourd'hui. Et dans 5 ans ou 7 ans, ou 6 ou moins, il y a une perle rare. Les perles rares, bon, c'est toujours compliqué cette question parce que
ça
dépend
sûr.
Pas de l'organisation de la fédération ou les moyens, parce qu'il y a les moyens, c'est juste, il faut une perle rare qui sort comme ça. Personne, tout le monde n'a pas un Federer ou un Djokovic.
Mais c'est quoi comme ça. C'est le mental, c'est-à-dire qu'il faut le vouloir plus que les autres.
Il y a tout, bien sûr. Franchement, je pense que tous les joueurs sur le circuit sont mentalement forts, ils s'entraînent, ils sont sérieux. Alors après, il y a un petit plus, mais parce que naturellement, le joueur est peut-être plus fort mentalement, mais ce n'est pas parce que les Français ne sont pas forts mentalement, c'est qu'il y a quelque chose qui est... Ou alors, il a le petit truc en plus, plus rapide, bah, il sert 15 km de plus que l'autre. Tout le monde aimerait servir à 200 ou plus de 200 à l'heure, mais... On n'y arrive pas tous, hein.
Bah oui, bah oui.
Et puis, donc ouais. c'est vraiment un mélange de tout. Il faut tout, et c'est pas toujours évident parce que tous les pays ont des programmes d'entraînement.
Bien sûr.
Les joueurs s'entraînent beaucoup partout. Et voilà.
Et puis c'est comme dans tous les sports, hein. Tout a évolué. Ouais, ça va encore plus vite qu'avant. Ça va encore plus vite qu'avant.
Ouais, il y a encore plus de concurrents. Donc c'est pas facile, mais il faut continuer et ça peut arriver. Ça peut arriver d'un coup comme ça. Hein.
D'accord.
Franchement, il y a 2-3 jeunes qui jouent vraiment bien en France, qui sont jeunes, donc 22, 20 ans, 21, 23. Mmh. Donc, il y a une nouvelle génération.
Oui.
Ils ne sont pas encore dans le top 10, mais Hugo Humbert n'est pas loin.
Oui.
Donc, voilà quoi.
Et chez les femmes ?
Chez les femmes, je crois que c'est un peu moins bon.
Oui, là, ça va être un petit peu plus compliqué. Hein. Oui.
Ouais, ouais, ouais. Donc, j'aurais gagné en Roland-Garros, mais pas tout de suite. Voilà. On me dit qu'il y a 2-3 jeunes filles qui jouent vraiment bien, qui ont du potentiel, mais j'espère que c'est vrai. Mais voilà, ça, je ne peux pas vous dire.
Ouais. Très bien, en tout cas. Énorme merci, Christophe, hein, de nous avoir donc consacré quelques minutes. Je crois qu'on a un bon souvenir. J'avais dû vous interviewer du côté de Chevreuse, mais il y a très longtemps, avec Iline Astaz.
Ah bon ? Ah bah
oui, oui. Il y a très très longtemps, vous étiez venu faire une démonstration donc, à l'époque. Voilà.
D'accord.
Très bien.
Ah bah c'est sympathique.
Eh ben, merci en tout cas. Merci en tout cas.
Merci beaucoup.
À très bientôt.
À bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Voilà donc pour Christophe Roger Vasselin. Avant de passer donc au MMA, c'est pas une question de mental quand même.
Je pense qu'il a répondu, a répondu très très justement à la question. Je
c'est
pas
des enfants gâtés, nos tennis.
Moi, je pense qu'on se fait une fausse idée. Je pense que c'est pas mentalement qu'il y a le problème. Je pense que quand on regarde les champions, il y a eu une génération en plus d'ogres au niveau du tennis masculin avec Federer, Djokovic, Nadal.
On
rajoute en plus qu'il y avait un joueur comme Murray ou un joueur comme Wawrinka qu'on a gagné, ils ont gagné 3 chacun. Il y a eu une génération où ils n'ont pas laissé beaucoup de place aux autres, que ce soit des Français ou d'autres nations. Moi, je pense pas qu'on soit moins fort mentalement ou moins fort techniquement. Après, c'est vraiment, ça va se jouer à.
C'est un peu des
perles là actuellement, des joueurs comme Alcaraz, comme Sinner, Alcaraz espagnol, Sinner italien. Ils n'arrivent pas de nulle part, mais voilà, c'est presque le hasard. Donc, il y aura peut-être effectivement. Un joueur français, peut-être dans ceux qu'on connaît déjà, les Arthur Fils, les Giovanni Impecci, qui vont peut-être arriver à percer, et puis il y en a peut-être qu'on ne connaît pas pour l'instant. Mm-hmm. Pareil pour les joueuses.
Oui.
Je crois qu'on parle souvent de Noah pour Roland-Garros, mais en fait, en termes de joueuses, je pense que ça a gagné à Roland-Garros il y a moins longtemps.
On a eu Pierce quand même. Hein.
Oui, donc ça a gagné il y a moins longtemps chez les femmes.
Et puis, on a quand même gagné aussi des tournois du Grand Chelem avec Bartoli, Mauresmo, quand
Bien
même.
Sûr,
hein.
Oui, voilà. Donc, on parle souvent des hommes. Alors, effectivement, actuellement, c'est un petit peu plus creux au niveau du tennis féminin.
Caro Garcia, elle est un petit peu en dents de scie.
Mais c'est pareil, elle a été très bonne à un moment. On a des fois des goûts de luxe. Et voilà, tout le monde peut pas être champion. C'est le propre un peu de tous les sports, alors notamment du tennis, qui est un sport individuel et où il y a qu'un seul qui gagne à la fin. Donc ça laisse pas beaucoup de place. Mais il faut y croire. Ça peut arriver.
Absolument. On y croit jusqu'au bout. Allez, on va parler MMA. Je vais retrouver donc nos acolytes. Je les salue. Ça va bien ? Pleine forme ?
Pleine forme.
Ouais. Bon, vous n'étiez pas le mois dernier,
donc on a
un petit peu avancé le rendez-vous pour qu'il n'y ait pas trop d'écart. Que s'est-il passé depuis le mois de janvier ?
Il y a eu énormément de choses, des belles choses, des choses un peu moins belles, et franchement, ça n'en finit pas. Mais on va dire qu'on est servi. On est servi en termes sportivement parlant. On a eu des belles prestations, notamment la dernière qui a marqué tout le monde, c'est celle de la victoire de Nassourdine Imavov. que vas-y, je te laisse dire.
Et là, il peut y avoir des victoires françaises contrairement au tennis.
Ça tombe bien qu'on en parle.
T'as fait un beau parallèle parce que je vais quand même commencer par l'actualité la plus récente, c'est qu'on a eu malheureusement ce week-end dernier la défaite d'un combattant français, William Gomis, chez les 66 kilos, qui pour moi, personnellement, je pense qu'il a gagné le combat, mais les jurys en ont décidé autrement. Et il a quand même fait une belle prestation. Malheureusement, ça entache un peu le chemin qu'il entreprend à l'UFC, parce que comme on le sait, l'UFC c'est une organisation assez sévère qui tolère très peu les défenses lorsque les combattants sont étrangers. Donc on essaye de faire en sorte que on espère que les combattants français accumulent le plus de victoires possible. Mais en dehors de ça, vu que tout à l'heure, tennis féminin, on parlait des tennis women, il s'avère que prochainement, on va avoir un combat féminin et peut-être la première championne française à l'UFC. Et ça risque d'être un tournant incroyable, parce que c'est Manon Fiorot qui va affronter la championne Valentina Shevchenko. Et ça, c'était un combat qui, concrètement, prenait beaucoup de temps. Pour nous, la championne essayait d'esquiver un peu Manon Fiorot. Je pense qu'aussi l'UFC, ils aiment beaucoup les combattantes et les combattants divertissants qui arrivent à ramener avec eux beaucoup d'audimat, beaucoup de public, ce qui n'est pas forcément le cas des combattants français malheureusement, mais sportivement parlant, on est là. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, je me demandais quel était le pronostic de Souleyman sur ce combat.
Pronostic un peu apeuré. Okay. J'attends Manon Fiorot au tournant parce que évidemment elle est française, on la soutient, on est vraiment derrière, mais le souci c'est que Shevchenko est au niveau top mondial depuis très longtemps. On l'a pas vraiment vu sur le déclin sur ses derniers combats, donc je pense que ce sera un défi pour Manon Fiorot, quand bien même elle en a excessivement envie de cette victoire et surtout besoin, parce qu'on est proche de la fin de carrière, 36 ou 37 ans, je crois.
Ouf.
C'est pas rien. Donc, c'est vraiment, je pense, sans abuser, et elle le sait, le combat de sa vie, de sa carrière. C'est maintenant que tout se joue.
Je pense que c'est important de le rappeler, c'est que le MMA, ça a été légalisé il y a très peu en France, et on a déjà une combattante qui se hisse dans le haut rang mondial, que c'est clairement la dernière combattante française à être aussi proche d'une ceinture. Moi personnellement, je partage pas forcément même avec toi, je pense que clairement elle peut prendre la ceinture. Je donnerais juste l'avantage à Shevchenko pour son activité, le fait qu'elle a été active, contrairement à Manon Fiorot qui a été moins sur cette dernière année. Mais je pense qu'on aura peut-être potentiellement une future championne française. Qui sait, on croise les doigts.
Ça sera quand le combat? C'est quand?
C'est
ce week-end.
C'est ce week-end.
Donc
ce week-end.
Le mois prochain, vous venez nous annoncer le titre.
Et on espère. Donc, comme tu nous as dit, effectivement, une actualité MMA depuis janvier très très riche. Et le combat de.
Du sniper.
On a eu le combat du sniper, le français Nassourdine Imavov, qui a affronté Israël Adesanya. Une légende de ce sport, la légende de sa catégorie.
C'est ça.
Et qui l'a mis KO second round. D'une
magnifique façon,
mais sublime. Il porte bien son nom, le sniper. Un coup bien placé, l'adversaire s'est éteint. C'était très beau. Que dire de plus? Il se rapproche de plus en plus du combat pour le titre. Donc potentiellement... un second champion français.
Et d'ailleurs, il est numéro 1 mondial de sa catégorie.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il n'est pas champion, mais il est le numéro 1 mondial de sa catégorie.
Il est juste après le champion.
C'est incroyable. On a vraiment des combattants français qui, en réalité, frôlent les ceintures. Et je pense vraiment qu'on va en avoir beaucoup. Maintenant, on espère que... En fait, concrètement, on espère que ça va... Avec ces résultats sportifs, il va y avoir aussi beaucoup d'engouement autour d'eux. Parce que c'est vrai que le MMA, ça prend de l'ampleur en France. Mais malheureusement, encore une fois, pour que les combattants français soient aussi respectés aux yeux des organisations américaines, il faut qu'il y ait plus de public. Donc,
ah bon, tu trouves qu'il n'y a pas assez de public?
Justement.
Parce qu'en fait, concrètement, pour juger ça, c'est les pay-per-view. C'est-à-dire que si les organisations voient qu'elles ne vendent pas de billets, pas assez de billets, et qu'il n'y a pas assez de vues sur leurs événements, clairement, c'est très compliqué. Pourquoi je parle de ça? Parce que récemment, on a appris une mauvaise nouvelle, c'est qu'on a un combattant français qui a enchaîné une série de victoires avec seulement 2 défaites, mais il était sur une série de victoires. L'UFC l'a licencié. Parce que malheureusement, on pense clairement qu'il s'agit de Taylor Lapillus, qui est un grand combattant français, qui d'ailleurs avait été déjà licencié de l'UFC une première fois. Il avait réussi à réintégrer l'organisation. Il a été licencié une deuxième fois. Et encore une fois, on suppose que c'est surtout le fait que, certes, c'est un combattant qui gagne, mais c'est un combattant qui malheureusement ne divertit pas assez et c'est un combattant qui, malheureusement, n'a pas avec lui un gros public pour justement remplir des pay-per-views, remplir des stades lorsqu'il combat. Donc c'est un peu l'aspect un peu traître de ce sport, c'est-à-dire que vous pouvez être bon, mais si à côté vous ne divertissez pas, vous ne ramenez pas un public avec vous, c'est très compliqué de perdurer. Donc du coup, vous avez peu le droit à l'erreur en fait, et vous avez peu le droit à la défaite.
Oui, oui. Mais il y a beaucoup de combats qui ont lieu quand même en Arabie Saoudite.
Effectivement, il y a eu des combats, le combat de Nassourdine Imavov, c'était en Arabie Saoudite. Mm-hmm. Et ce qui est bien, c'est que ça permet d'avoir plus de cartes et plus de combats qui se font. On avait, lors de cette carte, la victoire de Fares Yam qui s'était illustrée avec une victoire assez impressionnante. Parce que
une très belle défense de son
genou. Effectivement, il y a eu une prise de soumission contre lui et du coup, son genou avait été clairement mis dans une position, toi qui t'y connais mieux sous les mains, tu pourras nous le dire.
Donc Fares Yam a été pris dans une position de soumission dans laquelle son genou a été mis en hyper-extension, donc on le voyait tous taper pour sortir de la soumission, sauf qu'il a absolument pas abandonné. Il est resté dans une position inconfortable pendant plus d'une minute trente, je crois.
Ouais, à peu près.
C'était très visuel, très marquant, et pour autant, il finit le combat debout, en assénant son adversaire deux coups au corps, au visage, et remporte sa victoire assez facilement, quelques combats avant celui de Nassourdine.
Oui, et sur Bercy, ça marche bien quand même. À chaque fois, il y a toujours un peu de monde, non?
Bah, en fait, effectivement, il y a toujours du monde. D'ailleurs, l'UFC réfléchit à faire peut-être une carte spéciale, à mettre dans... En fait, ils numérotent leurs événements. Et il y a certains événements qui ne sont pas numérotés. En général, les événements qui ne sont pas numérotés sont par exemple les Bercy et UFC Paris, par exemple, qui se passent à Bercy. Ça, c'est des événements qui ne sont pas numérotés. Donc, du coup, c'est compliqué de valoriser une victoire qui a lieu dans ce genre d'événement. Par contre, tous leurs événements numérotés, là, ça a un vrai impact sur la carrière et sur la carrière, en fait, simplement des combattants. Et l'UFC, actuellement, commence de plus en plus à réfléchir à faire de l'UFC, de numéroter l'UFC Paris. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Mais effectivement, si l'UFC Paris est numéroté, là, on a une forte chance qu'ils considèrent beaucoup plus les combattants français parce qu'ils voient qu'il y a un vrai engouement. Il y a un engouement en France qui se crée de plus en plus. Mm-hmm. Donc grosso modo, c'est un peu ce qui se passe. On a également une très belle carte qui arrive ce week-end. Bon, pas de combattants français, mais quand même, ça reste une très belle carte puisqu'il y aura le combat de Alex Pereira, champion chez les lightweight, light heavyweight, excusez-moi. Et donc du coup, c'est un combat qui est très attendu parce que Alex Pereira est un champion pour l'instant qui est très actif, qui a combattu plus de 4 fois en une année, donc c'est assez impressionnant. Et en fait, pour l'instant, on ne comprend pas qu'est-ce qui peut l'arrêter puisque il ne fait que battre que des champions quasiment et quasiment que des finishes, que des beaux combats. Donc là, les combattants essaient de trouver un peu l'antidote contre lui. Son adversaire, il s'agit de Ankalaev, qui est un spécialiste de tout ce qui est technique au sol, sambo, etc. Et donc du coup, on pense que ça va être un combat un peu plus équilibré. Et on pense également que c'est peut-être le combattant de la catégorie qui aura une chance de vaincre Alex Pereira. Bon, moi personnellement, je suis pour Alex Pereira.
Voilà. D'accord.
Voilà.
Je pense que comme beaucoup de monde va être pour Alex Pereira, c'est comme clair. Toi, mais c'est personnellement, moi je suis pour la guerre, entre guillemets. Oh, j'ai envie de voir un très beau combat pour la simple et bonne raison qu'on va avoir deux styles. Oui, mais c'est le sport.
La guerre sportive.
Sportivement, le mot sport en grec, initialement, c'est vraiment une guerre, un combat, que ce soit pareil au tennis. Hein, deux adversaires qui s'affrontent, c'est une guerre. Hein. Ce n'est pas parce que c'est visuellement moins violent que ce n'est pas une guerre.
Oui.
Une guerre codifiée, c'est ça.
Alors, en réalité, tous les sports sont des guerres codifiées hein, quand on s'y penche.
Alors, je voudrais savoir, ça vous intéresse, MMA, ou vous aimez le sport en général, non?
Oui. Non, le MMA, je
c'est tout nouveau
suis pas
pour...
trop.
Ouais. C'est une génération, c'est tout nouveau, ouais. Et le tennis?
Le tennis, j'avoue que moi, je m'y connais absolument pas. Et je suis même pas sûr que ce soit un sport que j'apprécie. J'y connais même pas les règles.
Roland Garros, l'été, là, quand tu révises les examens, parce que c'est les images. Hein.
Ouais, mais moi, en été, je suis plutôt sur la Volleyball National League, donc vraiment loin du tennis.
Moi, personnellement, si j'ai beaucoup regardé le tennis quand j'étais plus jeune, Roland Garros, mon père aime beaucoup Roland Garros, donc du coup, on restait à la maison. Bon, je trouvais ça long, mais c'était assez impressionnant. Je voulais réagir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a, je me souviens plus du tennisman français qui justement qui euh, qui affrontait Nadal, etc. Avec, noir avec des. J'oublie,
mon fils.
Mon fils, voilà, Gaël, ouais, mon fils.
Gaël, mon
et
fils,
récemment, ouais. J'ai vu un podcast de lui où on parlait, on lui dit mais pourquoi, pourquoi t'as pas réussi qu'est-ce qui t'a manqué pour battre justement Raphaël Nadal, je crois que c'était à Roland Garros, etc. Et il expliquait. Il disait, il a fait, il faut juste comprendre que. On lui demandait qu'est-ce qui manquait au, au tennisman français. Et il disait, en fait, je pense qu'ils étaient juste simplement meilleurs que nous. Mais vraiment, il a dit parce qu'il se remémorait le match qu'il avait eu contre, contre Rafael Nadal. Et il disait, je fais un super beau match. Je crois qu'il avait gagné les deux premiers sets. Il était en termes de conditions physiques, il était au top. Et il a dit. À un moment donné, ben, physiquement, ton corps, il y a une baisse d'énergie qui est naturelle. C'est même pas moi qui ai mal géré mes émotions ou tout ça. C'est juste là, je sens que lui, il est encore au top et que moi, je dois chercher dans mes tripes. Mais en face de moi, j'ai quelqu'un de trop fort. Et parfois, dans la vie, il faut accepter qu'on peut être à son maximum.
Oui.
Ben, y a des gens qui sont meilleurs que nous. Donc, ça m'a fait réagir à ce que vous disiez. J'avais envie de l'évoquer. Donc, je suis content que
Jérôme
le dire.
Alors... Nadal, il y en a quand même, que ce soit des Français ou pas, très peu qui l'ont battu à Roland Garros. Hein.
Ouais, ouais, bah oui.
C'était son jardin et c'est un monstre là-bas. Mais oui, oui, effectivement, il avait une dimension, notamment à Roland Garros, où enfin, il n'était pas imbattable. Il a été battu peut-être deux fois, je crois, ou trois fois, mais c'est tout. Et il a battu les meilleurs.
Oui, on ne gagne pas autant de 15 Roland-Garros comme ça. Hein.
Ah, sur plusieurs générations. Ah ouais, quoi. Plus, il a battu les meilleurs.
Depuis 2005,
oui, il y a une époque où il y avait des joueurs très très forts. Il a battu Federer plusieurs fois, il a battu Djokovic, enfin voilà, des légendes. Il a battu Wawrinka en finale, il a battu, il a battu les meilleurs. Et pas que à Roland-Garros, mais principalement à Roland-Garros, mais
C'est bon, Suleiman, et puis pour le point ce mois-ci,
Non, ce sera bon, mais le mois prochain, on aura beaucoup de choses à dire.
Eh ben, très bien. Alors, juste avant d'envoyer la deuxième pause musicale, moi, je voulais quand même dire, Roger Vasselin parlait du tennis sport individuel. C'est aussi un sport d'équipe, la Coupe Davis. C'est quand même dommage d'avoir réformé cette Coupe Davis, quoi. C'est vrai qu'un tennisman, il veut gagner un tournoi du Grand Chelem et puis il voulait gagner la Coupe Davis telle qu'on l'a connue.
Bah, tout à l'heure, vous avez passé comme musique Saga Africa.
Bah oui, ça rappelle tellement de choses. 91.
Voilà, en 91, quand la France gagne la Coupe Davis contre les États-Unis.
On l'a fait exprès. Hein,
Mais oui, je me doute. Et puis, Roger Vasselin aussi, qui avait joué en demi-finale contre Yannick Noah.
C'est un peu dommage quand même. Hein.
Mais c'était... C'est un peu, image, c'est comme si tout d'un coup, on disait par exemple, là en ce moment, on est en plein dans le tournoi destination en rugby, d'un coup on modifiait et qu'on ne faisait plus des matchs en Écosse, au Pays de Galles, en Angleterre, mais qu'on le faisait sur un endroit neutre où toutes les équipes se retrouvent. Et donc oui, ça a été, c'est un avis, ça a été complètement...
C'est plus aussi fort qu'avant, quoi. C'est galvaudé comme épreuve, quoi, malheureusement.
Bah, ça perd de son intérêt,
parce que c'était un sport individuel qui devenait vraiment un sport d'équipe, là,
Alors en fait, c'est un sport individuel, mais je pense que comme tous les sports individuels, c'est un vrai sport d'équipe quand même, parce qu'on ne s'entraîne jamais tout seul. Oui. Les joueurs maintenant, alors on parle vraiment d'équipe, là, pour les joueurs, sont entourés par un entraîneur, un préparateur physique, un kiné, un coach mental, etc., un physio, je pense que ça existe sûrement dans MMA, il doit y avoir la même chose. Donc c'est déjà, il y a une équipe à ce niveau-là, et même de toutes les façons, on ne s'entraîne jamais seul. Même nous en club, on est sur des cours collectifs, les gens s'entraînent que parce que les autres en face vont être là pour leur donner du fil à retordre, pour donc c'est un sport individuel effectivement parce qu'on joue tout seul. Ça reste un sport.
Après, on joue aussi en double. Hein. Donc, quand on est en double, il y a une
d'ailleurs,
stratégie à deux.
Roger Vasselin était très bon en double. Hein. Puis le fils a gagné Roland Garros.
Son fils,
Et lui aussi, était aussi très bon en double. Hein.
Moi, j'aime beaucoup à Roland Garros les doubles mixtes. Parce qu'en fait, il y a vraiment une différence de gabarit entre les deux joueurs. Donc, c'est vraiment une stratégie d'équipe. Où est-ce qu'on joue? Comment on joue? C'est très, moi, je trouve ça très intéressant.
Et c'est vrai qu'il y a des joueurs et joueuses qui ont fait carrière en double mixte, qui ont eu un super beau palmarès en double mixte.
Et on parlait tout à l'heure du paratennis.
Oui.
Donc le paratennis en double, c'est très spectaculaire.
Oui, j'en ai vu pendant les Jeux paralympiques.
Voilà, donc il y a tous les ans à Roland-Garros, sur la deuxième semaine du tournoi, il y a un tournoi para.
Oui.
Vraiment, je vous invite alors déjà à aller voir de façon générale, mais les matchs de double sont vraiment très spectaculaires.
Et vous y allez pendant la journée des présidents, c'est ça hein?
Ah, le président, oui. Présidents. Ah,
ouais. C'est une tradition. Allez, on va marquer la deuxième pause musicale, encore liée au tennis. Hein. On va écouter Nolwenn Leroy. Alors pourquoi Nolwenn Leroy? Parce qu'elle est mariée avec Arnaud Clément. Donc voilà, on va écouter Nolwenn Leroy. Ensuite, il y aura le point foot. Et rendez-vous donc le mois prochain, le 14 avril, hein, pour le prochain rendez-vous MMA. Merci Souleymane et Benoît.
Merci
allez,
à vous.
Et la musique maintenant. Merci.
Partir, ni entendu la porte claquer, c'est un peu facile à dire. Après quelques années, je ne t'ai pas vu partir. Ton manteau est resté dans l'entrée depuis que je t'ai vu sourire en me rendant les clés. Et après m'avoir dit en face les quatre ou cinq vérités. We'll be right back.
Voilà, donc on va maintenant, comme d'habitude, bien passer à la page foot, hein, un sport que les tennisman aiment bien. Bonsoir Stéphane de Denclos,
bonsoir.
Ça va ?
Ouais. Bonsoir Philippe, ça va, très ouais. bien.
Bon
bien.
Stéphane, une question, est-ce que le monde du foot serait pas devenu fou ? Avec Longoria, avec Fonseca, et puis le président de la SNC Lorraine, qui a fait encore aussi des siennes dans les tribunes ce week-end.
Ah ouais, c'est peut-être c'est peut-être la pression énorme, il y a de moins en moins d'argent, de plus en plus de gens à payer, et donc effectivement il y a peut-être une pression, c'est ça surtout, c'est la pression qui est de plus en plus forte, alors ils craquent tous un par un.
Oui, c'est vrai que, mais enfin, même si, c'est pas bien de faire ça contre les arbitres, hein, mais c'est pas nouveau malheureusement, hein, on se rappelle notamment du président Hollas à l'époque.
Ouais, ben non, mais c'est vrai qu'il y en a qui.
Ou de Bernard Tapie aussi. Hein.
Voilà, exactement.
Claude Bèze.
Ouais, Claude Bèze. Mais là c'était quand même bord de terrain comme ça, en cours de match et tout, quoi, en fin de match comme ça, c'est assez. En cours de match, que le match n'était pas arrêté, parce qu'il prenait un carton rouge, notre ami Fonseca, donc c'est inquiétant quand même, quoi.
Ouais, puis Longoria aussi, des déclarations d'intermont indignes d'un président, hein, même s'il s'est excusé après.
Ben moi, je trouve que c'est pire. Je trouve que pour ma part, je trouve que c'est pire. Ouais. C'est bien pire que ce que fait Longoria, parce qu'il donne il donne vraiment un très, très mauvais exemple. Et puis aujourd'hui, si vous allez, si vous suivez des matchs de l'OM sur les réseaux sociaux, alors bien sûr, ce ne sont que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Mais d'un autre côté, on voit que les supporters et tout, qui n'arrêtent pas d'insulter tout le temps les arbitres, tout le temps, remettre en cause. Et puis si les joueurs, effectivement, par exemple, hier, en tout cas pour le match hier soir, on a un comportement exemplaire. Si les joueurs disent aussi qu'ils sont exemplaires, hein, bah pour tous ceux qui ont fait du sport et tout, quand on leur ravage tous les jours aux oreilles qu'ils sont désavantagés, ils finissent par en être persuadés et puis avoir ce sentiment d'injustice. Et puis, ce sentiment d'injustice, ça amène à tout, quoi. Moi, je trouve que c'est un très, très mauvais exemple. Je vais au-delà de pour les jeunes et tout, forcément, même comme par exemple Fonseca, ce qu'a fait Fonseca, je pense que c'est encore pire, quoi, ce qu'a fait Longoria.
Ouais. Allez, on va s'intéresser un petit peu quand même à ce qui s'est passé sur le terrain. Alors, on connaît les deux demi-finales de Coupe de France, hein, Dunkerque-Paris Saint-Germain, ça sera le 1er avril, et Cannes-Reims, ça sera le 2, puisque donc Cannes, une nouvelle fois, s'est qualifié, hein, en battant Guingamp 3-1. Je crois que c'est la seule équipe à ne pas avoir joué encore un club de Ligue 1 Cannes, hein, un petit peu comme les Herbiers en 2018. Reims s'est imposé pour la troisième fois au tir au but, hein, dans cette Coupe de France 2025, 1-1 face à Angers, 5-3 au tir au but, victoire de Dunkerque qui est allé gagner à Brest 3-2, c'est le troisième club de Ligue 1 que sort Dunkerque, hein, après donc Auxerre, Lille et maintenant Brest, et puis Paris Saint-Germain qui a fait le job, qui a fait le métier jusqu'au bout en s'imposant 7-0 face à Saint-Brieuc.
Ouais, tout à fait. On aurait tendance à penser que c'est un boulevard ouvert pour le Paris Saint-Germain. Rendez-vous compte que Reims, je pense que Reims est 15e aujourd'hui de Ligue 1. C'est-à-dire vous n'avez pas mieux que le 15e de Ligue 1 en demi-finale de Coupe de France, quoi. Ouais. Donc ça veut dire que normalement pour une équipe comme le Paris Saint-Germain, on peut dire que le titre il est carrément acquis. Maintenant, heureusement, en foot, on ne sait jamais ce qui peut se passer en football et puis on est à l'abri de rien. Quoi. Donc, ouais.
En tout cas, ça a été bousculé une nouvelle fois la hiérarchie. Puis Dunkerque chapeau, hein, quand même trois clubs de Ligue 1. Et puis Guingamp, à l'inverse, qui pour l'instant est en demi. Cannes, pardon, qui est en demi-finale sans avoir éliminé un seul club de Ligue 1 pour l'instant.
Oui, tout à fait. Ouais, mais c'est,
bon, enfin, c'est, ça,
c'est
hein.
incroyable. Il y a des histoires quand même assez incroyables parce que je dirais que Cannes, c'est peut-être pas vraiment non plus le club amateur de... D'ailleurs, c'est pas un club amateur, hein, je crois qu'il a récupéré le statut professionnel, Cannes, mais de National 2, peut-être, mais l'histoire de Dunkerque, elle est quand même aussi assez incroyable. Ouais. On parle de Brest, hein, du Brest d'Éric Roy, mais Dunkerque, c'est un peu la même chose au niveau d'en dessous. Hein. C'est-à-dire qu'ils étaient quand même, je crois qu'ils étaient derniers, après 10 journées la saison dernière, ils devaient être derniers, ils étaient avant-derniers à la trêve de la saison 2023-2024. Ils ont donc changé d'entraîneur après 10 journées. Est arrivé un nouvel entraîneur. Ils ont fait meilleure équipe de Ligue 2 sur l'année civile 2024. C'est-à-dire qu'ils ont fini fort, bien qu'ils se soient, ils avaient 5-6 points d'avance, mais ils se sont sauvés à juste au-dessus de la ligne du barragiste, quoi. Donc ils se sont sauvés. Et puis là, ils font quand même un championnat. C'est incroyable. Ils vont se retrouver.
Ils jouent la montée, hein. Ils jouent la montée pour l'instant.
Ils sont troisième, je crois. Ils doivent jouer peut-être ce soir.
Ce soir. Voilà. Ajaccio, attention, hein. Un match piège. Ah, hein.
Ajaccio, c'est fort.
Ouais.
Et surtout après un match de coupe comme ça, mais bon. Mm-hmm. Et ils jouent Ajaccio ce soir et c'est quand même assez énorme ce qui leur arrive, quoi. Ils passent de la 20e place de Ligue 2 à la 3e place de Ligue 2, demi-finaliste de la Coupe de France. Donc c'est quand même énorme, quoi. Et bon, c'est vrai qu'ils ont fait plein de choses. Bon, il y avait Demba qui était arrivé l'été d'avant en directeur sportif, l'ancien joueur sénégalais, joueur de Chelsea. Ils ont le Lichon, hein, c'est ça son nom, qui est venu, oui. le préparateur des gardiens de but de Chelsea, qui est maintenant le préparateur des gardiens d'Akia. Il y a une super belle équipe, mais il n'y a pas forcément non plus de grands noms, de stars dans cette équipe et tout. C'est pas parce que le club a été racheté l'été 2023, mais ils n'ont pas mis des millions et tout ça. Et c'est magnifique. Hein, ouais. Bon, malheureusement pour eux, hein,
c'est le PSG.
Voilà. Ouais. Comme on l'avait écrit dans un article sur le site, c'est-à-dire que autant avant les tours, quand vous êtes en huitième, en quart de finale, les clubs, on le voit toujours, ils hurlent de joie quand ils tombent sur le PSG pour la recette, pour la renommée, pour tout ça. Autant là, arriver en demi-finale, ils avaient tous qu'un souhait, surtout avec ce niveau d'équipe. Tout le monde est capable de battre. En dehors du PSG, Dunkerque peut battre Reims, peut battre Cannes. Tout le monde peut battre tout le monde, quoi.
En tout cas,
plus facilement que battre le PSG. Donc c'est sûr que aucun ne voulait tomber contre le Paris Saint-Germain. Donc malheureusement pour eux, ils tombent contre le Paris Saint-Germain. C'est un peu pareil que le Paris Saint-Germain qui tombe contre Liverpool en Ligue des Champions.
Ouais. Allez, on va justement parler maintenant de Ligue 1 et du Paris Saint-Germain, hein, qui garde toujours son invincibilité et ses 13 points d'avance, hein, puisque le PSG a battu Lille 4-1, match entre Européens. Auparavant, on va quand même rappeler que Monaco avait renoué avec la victoire en battant Reims 3-0. Victoire importante du Havre, ça les a peut-être sauvés. Donc à Lens 4-3. Victoire de Lyon devant Brest 2-1. Nice qui va gagner à Saint-Etienne 3-1. Strasbourg qui va gagner donc à Auxerre 1-0. Toulouse qui écrase Angers 4-0. Même score pour Rennes qui s'impose devant Montpellier. Et puis donc Marseille qui bat Nantes 2-0. On va quand même rappeler donc que le PSG, donc on l'a dit, 13 points d'avance, 62 points devant Marseille de 49, deuxième, troisième Nice 46, quatrième Monaco 43, cinquième Lille 41 et sixième donc Lyon 39. Ça c'est pour les places européennes. Et puis en bas de tableau, Nantes 14e, 15e Reims 22 points, 16e Le Havre 20 points, 17e Saint-Étienne 19 points et 20e Montpellier 15 points.
Ouais. Ouais, c'est sûr, ça reste très chaud, très très chaud devant comme derrière, hein, parce que même l'Olympique de Marseille maintenant peut être en danger. Hein. La semaine prochaine, Marseille va jouer à Monaco,
oui.
Et Nice va recevoir, par exemple. Et ils ont une différence de but quasiment identique. Si l'OM ne gagne pas à Monaco, même un match nul à Monaco, et que Nice gagne à domicile, bah Nice va passer devant. Et puis pour le bas de tableau, c'est un peu pareil. Hein. Donc c'est vrai, on en a déjà parlé ici, hein, mais c'est vrai que ça se confirme qu'il y a quand même trois clubs. Pour moi, selon moi, en tout cas, il y a trois clubs qui se sont sabordés complètement pendant le mercato. C'est Montpellier et Lens qui ont vendu quasiment tous leurs meilleurs joueurs, mais aussi Saint-Etienne qui n'a absolument pas ou quasiment pas fait de,
ouais.
fait de renfort, même ne serait-ce qu'à 4-5 millions, qui n'ont absolument rien fait pour essayer de se sauver. Même le Havre s'est renforcé.
Oui, ils vont peut-être se sauver, ils sont à 2 points de Reims. Attention Reims,
ce qui est bien quand même, car moi j'ai un regard un petit peu différent depuis ce mercato, malheureusement, sur Montpellier. Parce que moi, je faisais vraiment... D'ailleurs, on a encore une fois sur le site, on a aussi fait un article avant cette journée de championnat sur quel serait le classement du championnat si on ne prenait que les résultats de 2025, par exemple. Mm-hmm. C'est complètement fictif. Et Montpellier avait son maintien assuré, par exemple. C'est pour dire que par exemple, bon, après devant, seulement 6e, c'était avant cette journée-là. Mais tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas la tête du relégable, quoi. Quand on voit, on pensait un peu le Havre. Ben moi, je ne sais pas si vous avez regardé, pour ceux qui ont regardé le match du Havre à Lens, ça n'a pas du tout une tête de relégable. Il y a des très, très bons joueurs qui font des très belles choses. Montpellier, ça a longtemps été le cas. Ça l'est un peu moins, je pense, maintenant qu'ils ont vendu tous leurs meilleurs joueurs pendant le mercato. Je pense qu'ils se sont flingués tout seuls, quoi. Mm-hmm. Bon, Saint-Étienne, c'est compliqué. Saint-Étienne, je pense que peut-être Saint-Étienne, malheureusement.
Saint-Étienne, Montpellier, ça va être compliqué. Nantes, ils ont un peu de marge. Ils sont 14e avec 24 points. Il faut être en embuscade. Hein. Mais entre Reims, Le Havre et même peut-être Saint-Étienne, je pense que c'est là que ça va jouer pour accompagner Montpellier.
Voilà, je dirais qu'au rejoint, il y a de grandes chances à soi. Moi, je pense. Ouais, peut-être. Hein. Reims, ils sont mal. Parce que Reims, ils sont en train. Le problème de Reims, c'est qu'ils ont une chute vertigineuse. Moi, je pense que Montpellier, c'est cuit depuis le mercato. Je pense qu'il a vendu, sa place en Ligue 1. Mm-hmm. Je pense qu'avec Tamari, le Jordanien là, qui est parti à Rennes, je pense qu'avec lui, qui était vraiment un bon joueur, ça pouvait le faire. Bon, je ne parle pas de Nordin ou de même Accor Adams qui était encore là. Adams est parti très vite et puis en plus, il ne faisait pas une très belle saison. Mais bon, c'est le déclassement de Savagnier qui a quand même plus de mal à être décisif, ce qui est normal, parce que tous les joueurs, c'est de sa faute, hein, mais tous les joueurs ont besoin un peu d'être en confiance, alors quand on lui enlève le brassard comme ça, c'est un peu compliqué. Donc là, de plus en plus, moi, je verrais Montpellier, puis après, 3 pour 2 places, Reims... Ouais. Le Havre et Saint-Étienne.
Voilà. Allez, 25e journée de Ligue 2, hein, avec la victoire de Lorient. Là, c'est à peu près le statu quo. Hein. Lorient qui barre Odès 3-1. Victoire importante du Paris FC Annecy 3-2. De Metz aussi qui est allé gagner à Amiens 2-1. Le Red Star a battu Guingamp 3-1. À noter que dans les matchs pour éviter la relégation, 3 a battu Bastia 2-0. Et Caen a enfin renoué avec la victoire en s'imposant donc à Clermont 1-0. Donc ce soir, effectivement, il y a Ajaccio-Dunkerque à 20h45. Donc Lorient en tête 52. Pardon, devant le Paris FC, deuxième 49. Troisième Metz 47. Et on en parlait, donc quatrième Dunkerque 45 avant son match pour ce soir. Et cinquième Guingamp, Annecy, qui sont quand même, eux, un petit peu décrochés quand même, c'est moins qu'on puisse dire, avec 39 points. Et en bas de tableau, le Red Star 14e avec 29 points. 15e, donc Rodez 27 points. 16e Clermont 25 points, 17e Martigues 24 points et 18e Caen 19 points. Là, ils sont 4 pour éviter donc d'accompagner Caen en descente.
Ouais, tout à fait, ouais. Avec un match, une victoire très très importante du Red Star contre Guingamp.
Oui.
Un peu surprenante même, c'est une défaite un peu aussi, c'est peut-être le coup de la défaite en Coupe de France qui a eu des conséquences négatives, parce que Guingamp était plus dans une bonne dynamique, avait la possibilité en gagnant d'être 5 points, de rester en tout cas pas très loin du 5e, peut-être à 4 ou 5 points, je ne sais pas exactement, je ne l'ai pas sous les yeux le classement, mais il pouvait rester un peu en contact, là, en perdant à Paris, quoi, en banlieue parisienne, là, ils ont carrément diminué largement leurs chances, malheureusement.
Oui. Allez, en national, 23e journée, le Paris 13 Atlético battu par Bourg-en-Bresse 1-0 à domicile, alors que Versailles est allé faire nul à Valenciennes 0-0. À noter que Nancy a été battu par Boulogne-sur-Mer. Hein. Nancy, le leader, donc l'écart se réduit un petit peu en tête du championnat, battu 2-0. Victoire du Mans, qui reste toujours sur une bonne dynamique, devant Quevilly-Rouen 2-1. Et puis également victoire de Orléans devant Sochaux 4-2. Donc Nancy en tête avec 42 points, devant Boulogne-sur-Mer, 2e 39, 3e Le Mans 38 et 4e Orléans 35. Et en bas de tableau, c'est très très serré aussi, hein. 14e donc le Paris 13 Atletico 24 points, 15e Quevilly-Rouen 23 points, 16e Nîmes 22 points et 17e Châteauroux 20 points. Alors Stéphane, pour éviter quand même de se tromper, on va rappeler que seuls les deux derniers descendent cette année, du fait qu'il y ait 17 équipes donc dans ce championnat.
Ouais, tout à fait. Bah, ça va d'ailleurs leur faire du bien.
Oui.
Certainement faire du bien. Peut-être espérons une équipe comme l'Atletico, par exemple, qui a un peu de marge. Mais ce qu'on constate surtout, c'est la terrible bataille en tête, quoi. Parce que mettez-vous à la place de l'équipe du Mans, par exemple, qui se disait. Il y a le choc Nancy-Boulogne. Au moins, ça sera dans le meilleur des cas, peut-être un nul. Ou sinon, non, Boulogne va perdre, on va passer devant. Et du coup, c'est Boulogne qui gagne. Donc, c'est eux, même si eux, ils ont fait le boulot, ils sont toujours derrière Boulogne, quoi. Mmh. Alors que peut-être qu'ils comptaient sur ce. Ils avaient noté cette date en disant que c'était un match important. Et bravo Boulogne, quoi.
Ouais, ouais.
Bravo Boulogne, hein, parce qu'il n'y a que les deux premiers qui montent direct. Hein. Le troisième joue à barrage, hein, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Ouais. Alors, on va rappeler que Versailles est avec Sochaux, donc dans un groupe de 4 équipes, hein, qui va du 10e Sochaux jusqu'à Villefranche en Beaujolais, donc 13e, donc Versailles dans le ventre mou, avec 26 points. Donc, ça va un petit peu mieux, mais ils ne sont pas non plus sortis de tout danger, Versailles.
Ouais.
Mais, ouais. Allez, on finit avec les féminines. D'abord, l'équipe de France qui s'impose face à l'Islande 3-2, hein, donc dans le match de Ligue des Nations, mais surtout en fêtant donc la 199e sélection de Jenny Le Sommer.
Ouais, tout à fait. Le record de sélection. Ouais. Bravo à elle, c'est quand même assez énorme. Oui. On voit un peu la longévité de. Et en plus, pas. Bien sûr, pour qu'elle reste sur l'équipe de France ou qu'elle reste performante, mais dans les meilleurs clubs. Hein. Je crois qu'elle est partie, je ne sais pas combien de temps, aux États-Unis. Mais sinon, à Lyon, son palmarès, il est énormissime. Et bravo, chapeau
ouais.
bas.
Hein. Ouais, elle a détrôné donc Sandrine Soubéran, qui était jusque-là donc la record human avec 198 sélections. Alors, il y a une petite évolution quand même dans le championnat des filles, hein, puisque le Paris Saint-Germain est allé s'imposer à disons 1-0, mais comme le Paris FC a fait match nul face à Nantes 0-0 à domicile, le PSG passe devant donc au général. A noter que Lyon a gagné à Strasbourg 4-0 et Fleury-Mérogis est allé gagner à Guingamp 6-0. Donc comme on l'a dit, Lyon en tête à 46 points, devant le PSG 38 points, qui passe le Paris FC 3e 37 points, 4e Dijon 29 et 5e donc Fleury 26 qui recolle un petit peu par rapport
au Dijonais. Qui recolle un petit peu.
Oui.
Et qui, lors de la prochaine journée, c'est Fleury qui reçoit Dijon, je crois.
Ah ouais, donc c'est un beau match, un beau choc. Hein.
Donc, c'est un match pour les barrages, quoi. Donc, après, il y aura encore d'autres matchs, c'est pas fini, mais en tout cas, c'est un match pour les barrages. Donc, c'est Dijon qui est peut-être en train un peu de... Bien qu'ils ont bien résisté, hein, je crois qu'ils perdent, ils prennent un but sur le tard hein, contre Dijon et contre le Paris Saint-Germain.
Ouais, contre le PSG,
Ils ont bien résisté, donc... on disait hein, que ça avait une lutte pour Paris-SG et Paris-FC pour savoir qui allait recevoir dans les barrages, ce qui est toujours important pour et puis même en étant deuxième par rapport aux places européennes, c'est aussi important que ça enlève un tour de préliminaire, je pense.
Merci Stéphane pour ce point encore très, très dense hein, de l'actu foot. Rendez-vous la semaine prochaine. Et quelle semaine hein. Il y a une semaine folle qui nous attend.
Grosse semaine. On va se régaler. Là. Voilà. Les amateurs de foot, ils vont se régaler.
Eh oui. Allez, merci Stéphane.
Bonne soirée.
Et puis, je vais saluer Vanessa. Bonsoir Vanessa.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Le restant de l'actu omnisport hors foot, naturellement.
Exactement.
Et on commence avec Duplantis.
L'athlétisme. Ben oui. Et oui, Duplantis, nouveau record du monde, 6 m27 au All-Star Perche à Clermont-Ferrand, un événement organisé par notre champion tricolore Renaud Lavillény. Donc il bat son précédent record qui était de 6 m25 aux Jeux Olympiques. Mmh. Ça, c'était pour l'athlétisme. En ski alpin, ce week-end avait lieu la Coupe du Monde. Et il y a eu donc à Kranjska Gora en Slovénie l'épreuve du slalom. Oui. Malheureusement, pas de médaille pour les Français, mais Mufa Jandé termine 6e, tandis que Noël, lui, termine 10e. L'épreuve est remportée donc par Kristoffersen, le Norvégien, devant Rogan, son compatriote, et Feller, l'Autrichien. Ça, c'était pour le ski. On continue en sport d'hiver. Donc là, c'est pas tout à fait. C'était pas une compétition, mais Guillaume Cizeron, donc oui, notre champion olympique,
qui renoue avec la compétition
avec un nouveau partenariat avec la Canadienne, donc Laurence Fournier-Bodrensen, qui s'associe à elle. Elle avait été cinquième en Laurence Fournier-Baudry, excusez-moi. Fournier-Baudry, oui, qui était avec son ancien partenaire Nicolas Sorensen. Elle avait été cinquième en 2023. Et donc, Guillaume Cizeron, comme vous le savez, était donc champion olympique en 2022. Donc, nouveau partenariat en vue. Ils vont pouvoir disputer les compétitions internationales dès la saison prochaine. Ils sont associés depuis janvier. Par contre, pour les Jeux olympiques, il faudra qu'elle obtienne la naturalisation. Après, c'est pas forcément trop difficile, mais voilà, on verra ce qu'il en est. On va continuer en rugby. Donc,
oui, il y avait une journée de championnat.
18e journée du championnat avec le Stade français qui renoue avec la victoire en top 14 donc contre la sélection paloise, 22 à 17. Et le Racing 92, lui, a perdu contre la section paloise, 47 à 29. Le Stade français remonte à la 11e place et le Racing 92 est 12e. Excusez-moi, c'était le Stade français contre oui, le Stade Rochelet. Excusez-moi. En basket, on avait le Rolling ce week-end. Donc Monaco a perdu 86 à 80 contre Milan. Lyon-Villeurbanne, lui, a perdu son match contre le Panathinaikos, le champion d'Europe, 96 à 93. Pour le Paris Basketball, bonne nouvelle. Donc 93 à 88 contre le Bayern. Au classement de l'Euroleague, les Parisiens font 4e devant les Monégasques 5e et les Lyonnais sont 15e. Ce soir, le match, le Paris Basketball jouera contre le Fenerbahçe. Donc, nouveau match. Par contre, en Betclic Elite, c'était moins bon résultat pour les Parisiens avec la 20e journée, où Paris a perdu contre Saint-Quentin, tandis que Nanterre, lui, s'est imposé 93 à 80 contre Gravelines Dunkerque. Au classement, les Nanterrois remontent à la 10e place et les Parisiens sont toujours 2e derrière Monaco. On passe au handball, Philippe. Oui, il y avait la 13e journée de la Ligue des Champions cette semaine et le PSG s'est incliné face à Veszprém 37 à 33. Les Nantais, eux, ont fait match nul contre Kielce 28-28. Au classement, Paris 4e du groupe A et Nantais 3e du groupe B. En Star League, on jouait ce week-end la 18e journée et Créteil a gagné contre le Pays d'Aix 35 à 33. Le PSG, lui, a gagné 39 à 30 contre Saint-Raphaël et Philippe, Ivry a enfin gagné contre le Cesson Rennes 31-29. Une bonne nouvelle, d'autant plus qu'il y a eu un incendie dans leur gymnase lundi dernier, donc c'est une bonne nouvelle. Au classement, Ivry reste malgré tout dernier et Créteil est 12e. Le PSG, lui, est 2e à un point de Nantes, le leader.
Voilà.
Chez les femmes, on jouait la 15e journée et le Paris 92 a gagné contre Besançon 28 à 26. Au classement, les Parisiennes sont toujours 8e. Volleyball.
Oui, on termine avec le volley.
Et 23e journée de la Marmara Spike League. Donc, le Plessis-Robinson a perdu 3-0 contre Nice et Paris a perdu 3-2 contre Chaumont. Au classement, les Parisiens sont 9e et le Plessis toujours dernier. Chez les femmes, 23e journée également, le Valois a encore gagné, le Valois Paris, contre 3-0 contre Béziers. Au classement, le club des Hauts-de-Seine donc, remonte à la 2e place à égalité de points avec les premiers, le Pays d'Aix, Venel. Voilà pour notre journal
Merci.
Du sport.
Et il a été oublié le résultat de moto.
Oui, excusez-moi, le moto,
Thaïlande.
C'était Marquez.
Marquez, qui s'est imposé. Voilà. Merci Vanessa.
Merci. Ouais.
Merci messieurs d'avoir Merci. Parlé de tennis. Merci donc à notre ami Léo d'avoir été une nouvelle fois brillamment aux manettes ce soir. Et puis on vous laisse, on est dans les temps. En musique, on va finir. Tiens, il nous a quittés ce matin avec Herbert Léonard. C'était donc la chanson de Château Vallon, Puissance et Gloire. Belle soirée à toutes et à tous. Au bout du foot dans quelques minutes avec donc LAG et toute l'équipe. Salut.
Bonne soirée.
Thank you. amoureux. Monde mercenaire et ambitieux, tout se confond aveuglément dans la folie et dans le sang. Puissance et gloire dans l'eau trouble d'un regard, l'aventure et la passion autour de châteaux ballants. Femme emportée par la tourmente, douce, romantique ou intrigante, nul ne sait rien de vos secrets, de vos désirs, de vos regrets. Puissance et gloire dans l'eau trouble d'un regard, l'aventure et la passion autour de châteaux. Yeah.